Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
En République démocratique du Congo, de nombreux ménages en milieu rural dépendent des ressources forestières pour leur survie. Et ces ménages, ils trouvent de quoi satisfaire leurs besoins alimentaires, les besoins d'énergie, des logements, des santé et autres. Alors les conséquences, il y a une forte pression exercée, des fortes pressions exercées sur les forêts et les conséquences sont fâcheuses. Alors comment diversifier les revenus des autochtones pour réduire, diversifier les revenus des communautés pour réduire la dépendance aux forêts? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec Monsieur Hugues Akpona, directeur de la Fondation africaine pour la faune. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, dites-nous pourquoi les communautés, les ménages en milieu rural dépendent beaucoup plus de la forêt.
Merci, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, il faut dire que l'homme est né avec la forêt, a créé toute son histoire, une histoire autour de la forêt, du coup, a fondé sa dépendance en termes alimentaires, médicinal, cosmétiques, etc., sur la forêt. Mmh. La belle preuve, même les produits cosmétiques de haute valeur aujourd'hui tirent leur essence de la forêt. Du coup, l'homme ayant évolué progressivement avec cette ressource ne peut que dépendre de cette ressource pour satisfaire les besoins élémentaires.
Voilà, donc l'homme dépend de la forêt, d'où il tire beaucoup de ressources, d'éléments. Et aujourd'hui, pourquoi on veut réduire cette dépendance aux forêts, si on peut le dire ainsi?
La raison principale, c'est que la forêt n'est pas une ressource inépuisable. Mmh. Dans le même temps, nous observons depuis un certain nombre d'années un croissement démographique important dans nos sociétés. Mmh. Et nous savons que ces sociétés continuent, surtout dans le contexte africain, de dépendre de ces ressources. Alors la réflexion, c'est de savoir, est-ce que nous maintenons cette dégradation pour espérer que les ressources qui seront disponibles ne puissent plus satisfaire à la population sans cesse croissante? Donc c'est la raison principale pour laquelle nous pensons à une certaine gestion durable de ces ressources pour toujours continuer par servir les communautés qui y vivent autour et pour toujours continuer par servir l'humanité.
Mmh. Et donc vous dites qu'il y a une croissance démographique.
Oui, forcément.
Et une forte pression.
Sur croissance démographique qui engendre une forte pression sur les ressources naturelles.
Mmh. Et ces ressources commencent à diminuer. Et
forcément, ces ressources commencent à diminuer du moment où c'est pas une ressource inépuisable.
Mmh. Quelles sont les ressources souvent qui sont que les gens, les communautés vont chercher dans la forêt?
Dans la forêt, tout ce qui est ressources alimentaires, je sais que ici vous connaissez bien le pondou, c'est une ressource alimentaire non ligneuse qui est utilisée. Donc sur le plan alimentaire, les populations tirent un certain nombre d'espèces végétales pour leurs besoins alimentaires. Mmh. Au plan de la santé, toute la médecine traditionnelle est basée sur des ressources végétales. Mmh. Couplé certaines fois avec des ressources animales. Au plan alimentaire, toujours du côté protéines, la faune, les animaux qui sont chassés, oui, illégalement.
Et les braconniers qui vont.
Oui, les braconniers qui vont pour, soit pour des raisons de commerce ou pour des raisons alimentaires au niveau local, mmh, qui contribuent aussi à la dégradation de cette ressource. Donc il faut inculquer en tous ces acteurs la notion de durabilité, leur faire comprendre que cette ressource n'est pas inépuisable et qu'on puisse trouver les mécanismes de gestion concertée et durable de ces ressources pour s'assurer que ces ressources perdurent. Et ça s'inscrit dans la vision de AdouVF qui travaille avec les communautés.
Mmh. Dans quelle partie de la RDC?
Pour le moment, nous travaillons dans la province de l'Équateur, dans un paysage qu'on appelle Maringa Luporiwamba. Mmh. Et nous sommes basés à Djolo. Nous sommes basés à Djolo, où nous couvrons un peu toute la zone du paysage, donc de Bassan Kousso, Boende, Djolo, jusqu'à Lissala. Et nous travaillons donc dans ce paysage pour s'assurer que la faune et la flore vont perdurer pour longtemps et permet de fournir des services aux populations qui y vivent.
Et pourquoi vous avez choisi cette partie, hein, la province de l'Équateur? C'est parce que c'est là qu'il y a eu beaucoup, une forte pression sur la forêt?
Non, je crois que au niveau du pays, il y avait déjà eu une priorisation des aires d'importance pour la biodiversité. Et il fallait que chaque acteur puisse se positionner au niveau donc d'une de ces zones. Et le paysage Maringa Lopori Mwamba fait partie des zones prioritaires de conservation vu la densité de la forêt qui y existe, la densité de la faune qui a été aussi identifiée, et vu aussi que c'était une zone qui sortait un peu de conflit, donc qui avait fragilisé un peu l'appui soutenu pour la gestion durable de ces ressources.
Voilà, alors comment aujourd'hui on peut faire procéder pour réduire cette dépendance des communautés à la forêt?
Ouais, réduire la dépendance des communautés nous amène d'abord à comprendre le processus de la gestion des ressources naturelles et de la conservation. En fait, comme vous savez, nous avons la faune, nous avons la flore, et l'homme est au centre de toutes ces gestions. Du coup, cette gestion ne peut se faire sans l'implication active de l'homme, qui est le principal acteur, qui peut exercer une pression négative comme une pression positive sur la ressource. Alors, nous estimons qu'au vu de la dépendance de ces populations des ressources, il faille trouver des mécanismes qui permettent aux populations de se retrouver dans le processus de gestion participative de ces ressources. En termes d'alternatives, par exemple, à ces communautés, pour qu'elles puissent, d'une manière ou d'une autre, diversifier un peu leurs sources de revenus.
Pour ne plus dépendre seulement uniquement de la forêt.
Voilà,
pour ne plus
uniquement dépendre de des ressources forestières. Alors, donc c'est un peu la logique globale qui sous-tend tout le processus. Et concrètement, il faut d'abord se baser sur les priorités de ces communautés. Alors, et si je donne un exemple, si une communauté ne consomme pas le porc et que vous voulez comme alternative promouvoir le porc, c'est d'abord un échec avant que le projet ne commence. Donc tout est centré sur les priorités de ces communautés, et spécifiquement dans le paysage dans lequel nous sommes, comme je le disais, c'est une zone qui sortait de conflit.
Oui.
Il y avait une forte dépendance, un taux de pauvreté remarquable, et malgré ça, il y a quand même un certain nombre de potentialités locales qu'on pouvait valoriser. La production agricole, c'est une zone assez intéressante en matière d'agriculture. Et donc, le premier focus a été donc de se dire, pourquoi ne pas rapprocher la production de cette zone des communautés et des grands centres de ville? Donc, faire une sorte d'accès au marché. Donc, trouver un mécanisme pour que cette production locale qui est produite, la production en abondance qui existe dans le paysage, puisse trouver un marché et permettre d'avoir des revenus qui seront générés au niveau local. Donc ça a été une première stratégie à travers notre projet bateau, le bateau Moïse, qui permet quand même de faire sortir les produits agricoles et de procurer un certain nombre de revenus au niveau local.
Alors, et ça a aidé ces communautés?
Naturellement, oui. Ça a beaucoup aidé ces communautés aujourd'hui qui, d'une manière ou d'une autre, arrivent à continuer à augmenter leur production agricole.
Qu'est-ce qu'ils produisent généralement?
Oui, ils produisent bien sûr du maïs, du manioc. Il y a aussi les activités de transformation agricole, comme la transformation de l'huile de palme, qu'on a en abondance, qui est renvoyée vers les grands centres urbains pour quand même la commercialisation.
Oui.
Et à côté de ça aussi, vous savez, on ne peut pas concevoir des alternatives sans parler du développement local. Alors, notre projet bateau aussi permet de faire la jonction entre les besoins élémentaires en termes de construction, en termes d'habitation, etc., pour quand même desservir ces communautés.
Parce que même pour construire des habitations, on a besoin des ressources forestières.
On doit chercher du bois. De l'autre côté aussi, si on veut faire du matériau en dur, on a besoin de ciment, par exemple, qui n'est pas produit dans le paysage. Donc, ce bateau aussi essaie de faire cette jonction un peu pour, d'une manière ou d'une autre, faciliter la modernisation des pratiques au niveau du paysage. Il y a aussi ce qu'on appelle les produits forestiers non lignés, comme le caoutchouc, qui est aussi transporté. Et du moment où vous savez que dans la zone, on a de fortes concessions forestières, de fortes concessions agricoles, donc le caoutchouc, le cacao, le café, qui sont aussi transportés sur ce bateau.
Voilà. Donc ils produisent pour la diversification des revenus, c'est juste ça, c'est ce que vous avez pu faire, les aider à produire, à exercer des activités agricoles, et vous avez mis à leur disposition un bateau pour évacuer ces
produits. Voilà, donc en termes de diversification, nous sommes dans un consortium, nous avons notre partenaire l'ITA, l'Institut International d'Agriculture Tropicale, qui au niveau terrain essaie d'appuyer les communautés. Donc la promotion de semences améliorées, les bonnes pratiques agricoles, de faire du suivi au niveau de ces paysans pour améliorer déjà leurs pratiques et essayer de travailler sur les questions de rendement pour espérer que la production est assez intéressante. Et le bateau Moïse maintenant fait la jonction avec les centres urbains pour faire l'accès au marché.
Et depuis que vous avez expérimenté ce projet, est-ce que il y a eu une baisse de la pression des communautés sur la forêt?
Je peux dire que des résultats palpables ont été observés. Et je prends l'exemple de la réserve de faune de l'Omako, toujours dans le paysage où nous n'avions observé que les éléphants, que pas des traces. Mais je peux vous dire donc que cette année, nous en avons observé. Nous avons des photos d'éléphants qui prouvent que ces éléphants reviennent. Et au niveau local aussi, avec nos interventions, parce que vous savez, l'ignorance peut entraîner aussi une forte dégradation de ces ressources. Mmh. À travers l'information que nous passons, beaucoup d'acteurs savent en réalité déjà au niveau du paysage pourquoi conserver. Et ces pratiques contribuent d'une manière ou d'une autre à à réduire la pression sur ces ressources. Donc des résultats palpables sont observés. Nous avons des images satellitaires qui prouvent un peu que ce taux de dégradation a été réduit au niveau de nos zones d'intervention. Mais ça ne veut pas dire que tout est fait. Il reste encore à faire.
Comment réduire la dépendance des communautés aux forêts? Jonathan nous appelle des Dungu dans la province orientale. La Guiloa est à Kalemi dans la province du Katanga. Vous voulez également participer? Composez le 081-890-6394.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Comment réduire la dépendance des communautés aux forêts? Jonathan, vous êtes à Dungu, bonjour. Jonathan de Dungu,
oui.
Bonjour.
Bonjour Jody Kachama et bonjour l'invité.
On vous écoute Jonathan. Alors, vous êtes à...
Chez nous à Dungu, il y a beaucoup de forêts parfois, on ne cultive pas.
Alors Jonathan, je vais d'abord vous demander de fermer votre radio. Vous êtes à côté de votre radio. S'il vous plaît, veuillez fermer la radio qui est à côté. Vous allez suivre à partir de votre téléphone. Hein.
Ok, merci. Je suis à peine de la radio.
Alors, soit vous fermez, soit vous éloignez de cette radio, s'il vous plaît.
Ok, je suis loin de la radio et puis je veux juste parler sur les questions.
Un instant, la communication se détériore. On vous entend pas très très bien. La communication se détériore. Veuillez nous rappeler plus tard. Désolé, Jonathan. Entre-temps, on va accueillir la Guiloa de Kalemi. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi, à l'invité.
On vous écoute.
Merci. Je pense que j'ai trois questions normalement qu'il doit poser à l'invité.
Oui.
Nous connaissons très bien que la cause de la dépendance de la communauté rurale à la forêt, cela est dite, selon certains environnementistes, c'est suite à la fertilité qui n'est pas encore visible de la part de la communauté. C'est pourquoi la communauté quitte de là qu'ils sont ou de là qu'elle est, et elle est tentée de rejoindre la forêt. Mais si cela est plus visible, dans tous les liens, je pense à Kalemi que nous sommes par exemple, les habitants sont en train de laisser la partie de 30, 20 km, mais la population commence à rejoindre 80 km là qu'on trouve un peu de la forêt pour trouver de la fertilité. Maintenant, voici les trois questions. L'invité pourra me dire quels sont les risques lorsque la population est en train de continuer de détruire la forêt. La deuxième préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive à la population rurale qui quitte un peu la communauté pour rejoindre la forêt, en sachant très bien que lorsque nous sommes en train de toucher à la forêt, c'est comme si nous sommes en train de détruire aussi l'environnement. La troisième question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette population n'arrive pas sur les milieux où on ne trouve pas des radios là qui peuvent un peu fournir des informations vis-à-vis de la population locale. Merci Jody. Bonne suite de l'émission.
Merci Laguilois. Jonathan, est-ce qu'il est de nouveau en ligne, Tati? Fessine qui n'est pas là. Bon, il va certainement nous rappeler. Monsieur Hig, vous avez la parole.
Merci Laguilois pour ces questions. La première, les risques qu'on court en détruisant la forêt, comme je vous le dis, les ressources forestières ne sont pas une source intarissable. C'est pas une ressource qui se régénère en un an, en deux ans. Alors, quand vous prenez un peu l'exemple des pays désertiques en Afrique, ce sont des pays qui ont suivi progressivement ce processus de dégradation et qui en sont arrivés à cette étape. Donc, ce qui peut arriver, donc, quand on détruit la forêt, c'est que nous détruisons en même temps nos propres capacités de nous autosuffire au plan alimentaire, médicinal, cosmétique, etc. Donc, ce processus de dégradation des forêts engendre donc un processus de dégradation de l'homme. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire en résumé par rapport à cette question. Mmh. Alors, quant aux questions de sécurité, c'est vrai que plusieurs raisons peuvent engendrer donc le déplacement des communautés vers la forêt. Et une fois qu'une communauté se déplace vers une forêt, cela engendre forcément une certaine dégradation à un taux donné, dans une certaine proportion donnée. Alors, les populations qui se ruent sur les forêts pour des raisons de sécurité, c'est tout à fait normal qu'ils cherchent la sécurité.
La sécurité, oui.
Mais l'essentiel, c'est que ces populations aient l'information sur comment s'y prendre pour ne pas contribuer à une dégradation non réversible de ces ressources forestières. D'où l'importance de l'information, de l'éducation, etc., à tous les niveaux. Donc, même au niveau local, nous avons des pratiques coutumières qui sont des pratiques de conservation des ressources qui peuvent être adoptées par ces communautés qui sont vraiment détentrices de ces connaissances et qui peuvent aider réellement à la gestion durable de ces ressources forestières. Nous, dans notre approche, ne disons pas que nous interdisons l'accès à la forêt aux populations, mais la politique, c'est de se dire que la forêt cohabite avec l'homme, mais sans pourtant entacher le potentiel de ces forêts. Pour ce qui est de l'information, je crois que vu l'étendue de la République démocratique du Congo, l'important ici, c'est que chacun soit vecteur de l'information. Donc, Monsieur Laguilois, vous êtes actuellement informé, ne serait-ce qu'à une certaine proportion, à travers cette émission de Radio Capi que je salue. Et ça nous permet de nous dire que nous avons, au niveau de votre zone,
Kalemi,
au niveau de Kalemi,
dans la province du Katanga,
un bon vecteur d'information qui peut aussi appuyer toutes ces initiatives de conservation qui se mènent à l'échelle du pays.
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que la seule activité alternative, c'est l'agriculture?
Non, pas du tout.
Quelles sont les autres activités pour réduire la dépendance aux ressources forestières?
Définir des activités alternatives veut dire donc se coller aux facteurs de dégradation. Et tout à l'heure, en citant les facteurs de dégradation, je parlais de la chasse. Alors, les gens vont se chasser, pourquoi? Pour rechercher de la protéine animale. Alors, une alternative à cela pourrait être la promotion de l'élevage. Donc, choisir des espèces animales domestiques qui sont acceptées par les populations, qui peuvent être promues par les populations, qui sont déjà dans le registre alimentaire de ces populations, les promouvoir, appuyer la communauté à travers donc cet élevage pour s'assurer que ils puissent quand même
s'autosuffire au plan protéines alimentaires. Mmh. Ça, c'est une autre alternative qu'on peut aussi voir. Mmh. Une autre alternative aussi qui n'est pas trop directe, c'est un peu la promotion des projets RED. Et en espérant que, après tout le processus de validation, de vérification, on puisse générer des crédits carbone qui puissent être utiles pour financer durablement les activités alternatives autour de ces aires protégées, autour de ces réserves. Mmh. Donc, nous avons une multitude d'actions qui peuvent être menées, même l'intervention au niveau du développement local, qui peut aussi être intéressante, la promotion, comme on l'a fait à Bassan-Koussou, du petit métier. Comme,
quel genre de métier?
Oui, à Bassan-Koussou, par exemple, nous avons eu à financer un atelier de couture qui permet aux jeunes, aux dames, un peu de pratiquer la couture et de générer des revenus. En général, ces revenus, ils augmentent leur pouvoir d'achat. En augmentant leur pouvoir d'achat, ils réduisent la pression sur les ressources naturelles. Mmh. Et nous intervenons aussi dans l'éducation, parce que, comme vous le savez, l'éducation est la base de tout. Alors actuellement, nous sommes investis plutôt dans la construction d'une école au niveau
toujours à Bassan-Koussou.
Non, pas à Bassan-Koussou, au niveau de Ilima, c'est dans le territoire de Befale. Mm-hmm. Un peu pour améliorer les capacités des jeunes qui sont en fait la classe la plus importante pour nous en matière de conservation, qui peuvent être vecteur de l'information encore pendant longtemps, parce qu'on espère quand même qu'ils vont durer encore pendant longtemps sur Terre. Et nous estimons que l'investissement dans l'éducation aussi peut appuyer la conservation dans nos différents sites.
José Lissamba nous appelle de Mbandakar, dans la province de l'Équateur. José, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
On vous écoute, José.
Oui, merci beaucoup. Moi, j'aimerais justement contribuer par rapport à cette émission, parce que c'est un sujet vraiment très intéressant. Je vous remercie vraiment pour le choix de ce sujet. Et vous savez, ce qui amène les communautés locales de causer beaucoup de pression ou de détruire l'environnement, surtout la forêt, c'est d'abord la pauvreté. Les populations sont vraiment pauvres, les communautés locales sont pauvres, c'est pourquoi ils s'adonnent plus aux ressources naturelles. Donc notamment la forêt pour chercher, n'est-ce pas, à attirer son paix. Et c'est ici que moi j'aimerais juste poser une question avant que je n'arrive d'abord à poser cette question. Vous savez, cette pression que les communautés riveraines imposent sur les forêts, donc agent de beaucoup de conséquences. Donc parmi ces conséquences-là, on peut noter par exemple la disparition de plantes et aussi pourquoi pas de la faune. Alors, toute cette disparition de toutes ces ressources-là, oui, on peut peut-être priver aux générations futures peut-être de voir ou de prendre connaissance de ce que nous avions comme richesse auparavant, comme ressources, notamment comme j'ai attendu l'invité parler des éléphants là. Donc ces éléphants là subissent vraiment des pressions incroyables.
Alors, passez à la question, José. Quelle est la question?
Oui, la question est celle de savoir. Oui. Parce que j'avais dit au départ que c'est la pauvreté qui mène la population à déposer des pressions sur la forêt. Mmh. Moi, j'aimerais poser la question à l'invité. Quels sont les mécanismes concrets qu'ils ont pris pour chercher, n'est-ce pas, à aider la communauté de ne plus poser la pression sur la forêt ou sur l'environnement? Voilà un peu la seule question que je voulais poser à mon invité. Je vous remercie.
Bien, merci. Bavon nous appelle de Walikale, au Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
On vous écoute, Bavon.
Oui, moi, je voulais tout simplement poser une seule question à notre invité concernant dans notre territoire d'abord, qui est sous-peuplé par rapport à l'étendue du territoire. C'est une grande forêt vraiment qui nous entoure. Je voulais tout simplement savoir... nous qui sommes par exemple à côté du parc national de Kahuzi-Biega, mais nous nous disons un problème, c'est que nous ne savons même pas les vraies limites du parc. C'est que la population essaie de confondre la forêt du parc par rapport à la forêt qu'elle serait autorisée d'exploiter. Je ne sais pas quelles sont les mesures que l'on peut faire par rapport à ça.
Bien, merci. Georges, vous êtes à Manono, dans la province du Katanga. Bonjour. Georges, bonjour. Voilà, on vous entend pas très très bien. La liaison n'est pas très très bonne. Peut-être essayer. Voilà, on nous fait signe qu'il est en train de pleuvoir là-bas, à Manon. Peut-être que c'est ça qui a il pleut ici à Kinshasa. D'accord. Donc alors est-ce que c'est ça qui est à la base de cette détérioration de la ligne? On ne sait pas. Bon, Monsieur Higg, vous allez quand même répondre à ceux qui ont posé les questions, à José et à Bavon.
Ok, merci. Je commence par Bavon. Merci pour la question. C'est une question assez pertinente. D'abord, une première observation, c'est si le Nord Kivu est peu peuplé, a une grande ressource forestière, il faudrait pas qu'on attende qu'on soit surpeuplé avant de commencer par bien gérer ses ressources. Donc, si le peu de population peut déjà intégrer les notions de gestion durable, ça serait formidable pour que dans le long terme, on puisse éviter que la forte pression vienne englober toute la ressource. Et en termes de mesures à prendre pour connaître les limites, je crois qu'au niveau national, nous avons l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui est la structure habilitée à gérer les réserves et les aires protégées. Et je crois au niveau du parc de Kahuzi-Biega, il y a aussi la présence de cette institution. Ce que je pourrais recommander, c'est que la population à travers les autorités locales puisse faire une séance de concertation avec les gestionnaires de ce site, histoire de faire une délimitation participative si elle n'a pas été encore faite. Mmh. Et si elle a été faite, de faire une reconnaissance de ses limites de manière participative avec les populations. Et
si il n'y a pas de limite, la population va continuer à...
Ouais, s'il n'y a pas de limite, ce qui est sûr, aucune aire protégée n'est créée sans limite. Des limites existent sûrement. Il reste sûrement à faire une délimitation participative avec la communauté, histoire de reconnaître ces limites et ensuite de les matérialiser de manière physique pour éviter de ces genres de conflits sur les limites de ces aires protégées. Mmh. Et je crois l'institut habilité pour le faire, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui a pour pratique d'organiser chaque année ce qu'ils appellent un comité de coordination de sites, qui est le COCOSI, au cours duquel toutes les parties prenantes se retrouvent pour discuter un peu de toutes ces questions de gestion de ces aires protégées. Et je crois que c'est un canal intéressant que je recommande à M. Bavon pour quand même prendre en compte sa préoccupation. Mmh. Et pour la question de M. José Lissamba, je vous remercie pour cette question et je suis aussi assez content parce que vous appelez de la province de l'Équateur. Juste là, vous êtes le premier à nous appeler de la province dans laquelle nous intervenons.
Voilà. Il dit que la pauvreté, c'est la pauvreté qui est à la base de cette pression constatée sur les ressources forestières.
Tout à fait. Et la pauvreté est une des causes principales de la pression sur les ressources forestières. Mais pour réduire la pauvreté, personne n'a, je crois, une solution miracle. C'est la combinaison de tout ce que nous faisons, que ça soit activité alternative, mais surtout l'implication de tous les acteurs, que ça soit les autorités au niveau local, que ça soit les autorités au niveau provincial, que ce soit les autorités au niveau national. Un peu comment nous nous arrangeons pour que on travaille dans un cadre synergique pour que les petites actions qui sont menées de part et d'autre puissent produire un effet et un impact assez intéressant. Mmh. Et je pense que c'est dans ce sens que nous devons nous investir. Mais l'autre chose importante aussi, c'est que il faut qu'on pense à notre notion de pauvreté dans notre contexte africain. Est-ce que cette pauvreté ne se trouve pas dans la mentalité aussi? C'est important aussi de travailler un peu là-dessus, parce que j'estime quand même que nous avons un minimum au niveau de nos pays, au niveau de nos régions, surtout autour de ces ressources forestières, pour s'autosuffire, etc. L'essentiel est de voir comment nous gérons pour aboutir à cet objectif. Et comme je le dis, tout ce qui est alternatif que dont nous faisons la promotion contribue à améliorer le pouvoir d'achat, à diversifier les sources de revenus de ces communautés et à réduire d'une manière ou d'une autre, dans le court ou le long terme, la pauvreté qu'on observe un peu dans cette zone.
Alors, mais les communautés recourent également à la forêt pour trouver les bois de chauffe. Alors, comment est-ce qu'il y a moyen de développer d'autres alternatives pour réduire cette pression sur les ressources forestières?
Naturellement, et je crois que de plus en plus, il faut qu'on intègre dans les pratiques quotidiennes de communautés dans cette province, la notion de promotion de plantation. Parce que généralement, quand vous venez avec l'idée de faire des plantations, par exemple, de bois énergie, les populations se disent, bon, écoutez, avec tous les arbres que nous avons dans notre forêt,
pourquoi
on irait encore vers cela? Oui. Alors que nous voyons le danger venir de loin et nous disons, pourquoi ne pas faire la promotion de ces plantations? Il en est de même.
De l'acacia, par exemple.
L'acacia, ce sont des espèces quand même assez intéressantes qui peuvent permettre de compenser ce besoin en bois énergie. C'est la même chose au niveau alimentaire. Quand vous prenez la pratique de la collecte des chenilles, la grande saison de collecte de chenilles qui se fait n'est pas sans impact sur la forêt. Alors pourquoi ne pas faire des plantations privées des arbres à chenilles, histoire de réduire un peu la dépendance de la forêt pour ces communautés, même si c'est une activité qui de plus en plus devient une activité culturelle et culturelle au niveau du paysage, on pourrait quand même réduire d'une manière ou d'une autre en faisant la promotion des plantations.
Mais qu'est-ce qui se passe quand les communautés vont chercher les chenilles, détruisent les arbres?
Mais écoutez, vous voulez voir le père et vous rencontrez le fils, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez en forêt pour les chenilles, vous rencontrez un gibier.
Voilà, on prend les deux.
On prend les deux. Donc, comprenez avec moi que les deux vont de pair.
C'est ça. Oui. D'accord. Comment réduire la dépendance? Comment multiplier les sources des revenus pour réduire la dépendance des communautés aux forêts? Au Capiservice, ce soir aujourd'hui, Monsieur Hugues Akpona, directeur de la Fondation africaine pour la faune. Alors, quelles sont les autres activités que vous menez pour réduire, n'est-ce pas, cette dépendance à des populations des communautés à la forêt?
Et je crois, comme je le dis, je l'ai toujours dit depuis le début de cette émission, nous investiguons dans la divulgation de l'information au niveau des communautés. Nous pensons que c'est un outil important pour permettre à ce que chacun soit informé de ce qui se fait et comprenne surtout la logique qui sous-tend tout le processus de conservation. À côté de ça, nous continuons pas à nous investir dans l'éducation. À travers l'école que nous construisons, dans le développement local.
Vous faites aussi l'éducation environnementale.
Ah ouais, l'éducation environnementale fait partie de notre mission. Et nous organisons plutôt des projections à tous les niveaux, histoire de mieux informer les communautés. Et de plus en plus, avec notre volet école de conservation, nous pensons introduire dans le curricula un peu les notions de conservation déjà au niveau de la classe juvénile pour espérer qu'ils grandissent avec cette information et que cette information aussi grandisse en eux pour espérer qu'à l'âge adulte ils puissent contribuer efficacement à la gestion de ces ressources. Et nous faisons aussi, nous appuyons un peu tout ce qui est développement local aussi, hein, et tout ce qui est appui aux communautés à travers le projet bateau, à travers des appuis ponctuels au niveau de certaines sources. Nous faisons la promotion de l'agriculture durable à travers notre partenaire ITA. Et nous avons aussi un partenaire Juristral, qui est une ONG qui s'occupe un peu du renforcement de l'application des lois, qui est notre bras armé pour tout ce qui est information sur les lois qui existent au niveau national, pour les ramener au niveau local, pour permettre à ce que chacun, qu'on ne se cache pas derrière le principe selon lequel nul n'est ignorant de la loi. Alors ça, c'est aussi un de nos bras armés qui permet quand même de d'apporter l'information législative au national au niveau communauté pour leur permettre d'être informés des mesures que prend le gouvernement même en matière de gestion de ces ressources.
Bien, Monsieur Hugues Akpona, directeur de AWF, African Wildlife Foundation, voilà, la Fondation africaine pour la faune. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne journée.
Merci Jody, je remercie Radio Okapi pour tout le travail intéressant que vous faites. Vous êtes pour nous un bras armé aussi, qui est vecteur de l'information. Nous vous remercions et nous espérons que cette collaboration durera longtemps, comme le dit notre mission.
À la prochaine.
Merci.